En fait, c'est un accord que j'ai eu avec eux. Et ils vont m'aider, en tout cas, à rester dans les temps. Et j'aimerais que nous lisions, en introduction de cette deuxième conférence, un texte bien connu dans Matthieu, au chapitre 19. Alors, c'est un texte que j'utilise souvent en introduction d'un thème qui traite de la famille, parce que voilà qu'en 15 versets, Jésus vraiment traite de toutes les situations. Et comme le mariage n'est pas une réalité pour tout le monde, et le mariage non plus n'est pas obligatoire, j'en dirai quelque chose tout à l'heure, il me semble que ce texte est vraiment de circonstance. Matthieu 19, et à partir du verset 3, il y a toujours beaucoup de gens autour de Jésus, et Jésus profite toujours de la présence des gens pour enseigner. Et des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme ?» Et il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » Ils lui dirent alors, pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie? Il leur dit, c'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle et en épouse une autre, commet l'adultère. Ses disciples lui dirent, « Tu sais, Seigneur, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, ben, il n'est vraiment pas avantageux de se marier. » Jésus répondit, parole de Jésus, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus eunuques par la main des hommes. Et enfin, il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du règne des cieux. Comprenne qui pourra. » Alors des gens lui emmènent des enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples, gardiens du temple, les rabrouèrent. Alors Jésus dit, « Laissez faire les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs semblables. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Incroyable parole de Jésus. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur ce texte, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et c'est vrai que le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est tension entre les acteurs de l'éducation de nos enfants. Tension. Et le maître mot de ce congrès, c'est vraiment ce mot. Et nous sommes invités, et toute la parole de Dieu le dit, à éduquer par l'enseignement. Et là, vous connaissez ces paroles étonnantes que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Déjà, vous mettrez sur votre cœur ces paroles que je vous adresse. Et vous les apprendrez à vos fils et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 20. Et puis ce verset qui a déjà été cité, « Allez !» Faites des gens de toutes les nations, des disciples, et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28. Jésus qui dit à ses disciples, faites et observez tout ce que les scribes et les pharisiens vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des charges lourdes et difficiles à porter pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Matthieu 23. Et enfin, cette parole de l'apôtre Jacques, mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Alors, l'éducation est un thème éminemment biblique. Et c'est aussi un thème important. dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Les sociétés qui sont toutes orientées vers le savoir, vers la transmission de la connaissance. Et je suis certain que si je vous interrogerais, vous avez chacun dans cette salle une idée certainement très personnelle sur l'éducation, sur les enjeux de l'éducation, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle n'est pas, sur le rôle de l'éducation, sur le rôle des éducateurs. Et en introduction de ce message, j'aimerais vous présenter quelques idées simples sur le thème de l'éducation. Alors, ces idées sont tellement simples qu'elles vont certainement paraître pour certains d'entre vous des lieux communs, des évidences. Mais au moins, nous aurons une base commune sur un sujet qui est très vaste et dont il ne sera pas possible en 40 minutes, il m'en reste plus que 35, de dessiner tous les contours. Alors, la première idée que je vous propose, c'est une définition toute simple. Pour moi, éduquer, parce que on ne peut pas réfléchir aux tensions par rapport aux éducateurs qui essayent tous de formater nos enfants, d'accord ? On ne peut pas réfléchir à ce sujet sans se donner une petite définition de l'éducation. Alors pour moi, la définition toute simple que je voudrais donner à l'éducation, et en rapport même au texte que nous venons de lire, eh bien éduquer, je dirais, c'est montrer que quelque chose est possible. Alors, c'est croire d'abord que quelque chose est possible, mais c'est ensuite le montrer. Enseigner, c'est montrer que quelque chose est possible. C'est croire que rien n'est totalement figé et que nos vies de relations, notre présent, notre avenir, nos croyances, vous savez, celles qui influencent tous nos comportements, eh bien, tout cela peut changer. Et c'est au travers de l'enseignement que l'on montre que c'est possible. Et des milliers de prédicateurs ce matin, dans toutes les églises du monde, vont prêcher, vont enseigner, vont éduquer, parce qu'ils croient que quelque chose est possible. Et non pas parce que le pouvoir de changer les choses ou de rendre les choses possibles sont en eux, non, mais parce que la parole de Dieu a ce pouvoir en elle. Et que nous sommes simplement porteurs. Nous sommes simplement porte-parole de cette puissance. Enseigner, c'est montrer que quelque chose est possible. La deuxième idée que j'aimerais vous proposer, c'est quelles sont les composantes essentielles de toute démarche éducative. Et les textes que nous venons de lire contiennent tous ces composants essentiels. Et personnellement, je vois trois composantes essentielles dans toute démarche éducative. La première chose que je vois, c'est un contenu. Il y a d'abord un contenu, un savoir, des connaissances, une expérience. Et pour ce qui concerne l'Évangile, eh bien, ce contenu est aussi une personne, Jésus-Christ. Une personne avec qui nous sommes invités à construire une relation vivante, parce que c'est un Dieu d'amour. Et voilà que le contenu que nous devons transmettre, enseigner, éduquer, est à la fois un contenu, un savoir et une personne. La deuxième composante que je vois dans toute démarche éducative, c'est la composante transmission. Car un savoir que l'on ne transmet pas finit par disparaître. Une relation que l'on n'entretient pas, que l'on ne communique pas, finit par s'éteindre, finit par s'étioler et finit au final par s'évaporer. Allez, enseignez toutes les nations et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et je vous assure, quand nous regardons l'histoire de l'Église, ce qu'elle a été, et de voir cette foule nombreuse, et nous sommes juste une portion d'un peuple si large, si grand, qui est sur toute la terre, eh bien si nous sommes là aujourd'hui, c'est que des gens nous ont transmis ce que nous devions savoir. Et on ne sera jamais assez reconnaissant pour ceux qui n'ont jamais cessé de transmettre. Et enfin, il y a une troisième composante, et celle qui me semble la plus négligée, et certainement la plus importante, même si les trois sont importantes, c'est une culture. Il ne peut pas y avoir de contenu sans une culture propre à ce contenu. Et pour nous, bien entendu, chrétiens, cette culture, c'est la culture du royaume de Dieu qui doit imprégner toute notre éducation, qui doit imprégner toute notre transmission. Et c'est précisément ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ne faites pas comme eux parce qu'ils disent et ils ne font pas. Leur enseignement n'est accompagné d'aucune culture. Aucune culture. C'est précisément ce que Jésus nous ordonne dans Matthieu 28. Et c'est seulement quand nous mettons en œuvre cette culture que nous devenons cohérents, que nous devenons vivants, que nous devenons audibles, que nous devenons compréhensibles, que nous devenons intéressants, que nous devenons motivants. Et on ne peut pas parler d'éducation sans motivation. La troisième idée que j'aimerais vous soumettre, je la formule par une question. Qui sont les éducateurs ? On est perturbé par l'ensemble des éducateurs qui essayent d'influencer nos enfants, mais qui sont les éducateurs aujourd'hui ? Eh bien, dans le cadre de la communauté chrétienne, et je vous assure, frères et sœurs, que nous ne nous en sortirons pas si nous ne validons pas ce point, dans le cadre de la communauté chrétienne, nous sommes tous éducateurs les uns des autres. Nous sommes tous pédagogues les uns des autres, que nous le voulions ou non. Quand je regarde ces KF que je connais depuis 20 ans, quand je vous vois vivre votre foi, quand je vous vois vivre vos convictions, quand je vois votre dynamisme, quand je vois votre persévérance, quand je vois votre développement, quand je vois vos vies qui sont autant d'aventures spirituelles exceptionnelles que Dieu vous a accordées, eh bien, vos vies me parlent. Et vos vies me disent, Gérard, quelque chose est possible. Quelque chose est possible. Et Jésus va beaucoup plus loin. Dans Matthieu 6, il nous invite à regarder les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent et qui ne recueillent rien dans les granges, dit notre Seigneur. Et pourtant, votre Père les nourrit. Oui, les oiseaux du ciel même nous disent quelque chose est possible. Jésus nous invite encore à regarder les fleurs des champs. Même Salomon, nous dit Jésus, n'a pas été revêtu comme l'une d'elles dans toute à l'apogée de sa gloire. Les fleurs nous disent que quelque chose est possible. Les fleurs nous éduquent. Et Dieu, qui ne recule devant rien, n'hésite pas même à utiliser un âne dans Nombre 22 pour enseigner un prophète récalcitrant, l'histoire de Balaam. Dieu n'hésitera pas à utiliser une baleine, un ver, un ricin pour enseigner sa grâce au prophète Jonas. Tout devient éducation. Alors, on ne va pas parler de tous ces points, mais on va parler de nous, nous, dans le cadre de la communauté, éducateurs les uns des autres. Quelque chose est possible, un contenu qui est à la fois un savoir et une personne, une transmission afin que ce contenu ne s'éteigne pas, une culture à vivre et pas seulement à dire, et nous sommes pédagogues les uns des autres. Et je vous assure, c'est la clé. Et c'est d'autant plus la clé que nous avons autour de nous des concurrents redoutables. Et parmi ces premiers concurrents, je vais en citer un qui va certainement vous surprendre parce que aujourd'hui, ce sont devenus les maîtres de l'éducation. Ce sont les écrans. Les écrans. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a 7 écrans par famille, selon les meilleures statistiques. Et la généralisation de l'usage des nouvelles technologies de la communication au cours des 15 dernières années constitue sans doute un élément majeur dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. Majeur. Et quand on se demande, mais qui sont les faiseurs de pression et les faiseurs de formatage, mais Internet, bien entendu, y participe. Et je ne suis pas un technophobe. J'ai travaillé dans une compagnie qui, pendant 30 ans, a mis en œuvre l'essentiel de la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Parce que tout en facilitant la vie et en nous donnant une ouverture incroyable au monde, eh bien, ces technologies prétendent désormais organiser notre sphère sociale, notre sphère amicale, notre sphère amoureuse, ludique et éducative. Et selon des enquêtes très récentes, 4% des enfants de 6 à 8 ans surfent quotidiennement sur la toile. 70% des moins de 11 ans surfent sur la toile quotidiennement. Et 95% des adolescents passent entre 4 et 5 heures sur le net par jour. Sur les 50 sites préférés des jeunes internautes, 28% ont un caractère violent, voire extrêmement violent. Et parmi les sites les plus fréquentés, 32% ont un caractère hautement sexuel. Et rencontrer des messages qui cultivent la haine de l'autre, qui proposent des recettes pour se suicider ou décrivent des rites sataniques, eh bien, n'est pas vraiment propice à l'éducation et au bon développement psychoaffectif des enfants. Et l'exposition brutale et continue aux images pornographiques, auxquelles 87% des enfants et ados de moins de 14 ans affirment aujourd'hui avoir accès, prive les jeunes générations de ces temps passés à moduler, à modérer et à gérer leur vie relationnelle dans une dimension affective, dans une dimension relationnelle digne de ce nom. Et puis il y a aussi beaucoup de jeux utilisés sur le net. Et comment s'adapter à un quotidien qui est triste quand on expérimente avec succès sur Internet le sentiment d'invincibilité, d'immortalité ou le goût de vengeance? Et vous savez, je ne suis pas un technophobe, j'utilise la technologie et c'est au cœur de l'activité que je mène. Mais je suis sidéré par la candeur des parents à l'égard de l'Internet, de l'usage d'Internet. Parce que là, nous avons là typiquement l'exemple d'un contenu sans culture, d'un système éducatif sans transmission, et qui est certainement le plus grand éducateur de nos enfants en ce début de XXIe siècle. Et en ce qui concerne l'utilisation de ces technologies, ce n'est pas l'usage qui est dommageable, mais c'est l'absence d'une éducation autour de ces objets. Et cette éducation et cette pédagogie autour de l'objet est indispensable pour un usage sans risque ou avec moindre risque. Et je crois que l'exemple de la culture automobile est intéressant. Le code de la route, mais aussi les routes en général, les panneaux de signalisation, la police de circulation se sont mis en place en même temps que l'objet automobile. Et de plus, cette culture automobile, eh bien, suppose une culture avec une transmission et un apprentissage. On en parle à nos enfants en leur apprenant comment traverser une rue, comment on regarde à droite, comment on regarde à gauche. On leur dit qu'ils peuvent passer quand le petit bonhomme passe au vert et qu'ils doivent attendre quand il est rouge. Et quand ils sont suffisamment grands, on leur paye des cours d'auto-école pour qu'ils apprennent à conduire. Exemple simple pour dire que la culture suppose transmission. Et la transmission ne peut pas s'arrêter. Parce que si la transmission s'arrête, la culture s'arrête avec. Qui d'entre vous s'est encore allumé un feu sans allumette? Qui d'entre vous sait faire ça? Eh bien, il y en a, un parmi 400. Et pourquoi on ne sait pas le faire? Ben parce que simplement la transmission s'est arrêtée. Et que s'il y a vraiment une chose qu'on ne doit jamais arrêter, c'est de transmettre. Et la transmission ne suppose pas de rupture. Et j'en viens bien sûr à nous. Quelle culture nous transmettons au travers de notre vie? Parce que vous savez, quand je parle et quand je pense à l'éducation, évidemment qu'il faut dire les choses, évidemment qu'il faut expliquer les choses, évidemment qu'il faut faire de la pédagogie pour que les gens comprennent bien qui nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous croyons. C'est indispensable. Mais si on ne fait que cela sans une culture que nous transmettons en même temps, eh bien, il y a de fortes chances que cette culture s'évapore et s'arrête. Alors j'aimerais m'adresser, il me reste encore 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, à toutes les personnes que je vois dans cette salle. Vous voulez être préféré en termes d'éducation. Eh bien, c'est entre vos mains. Alors, aux gens mariés, je suppose que vous avez été passionnément indignés par le mariage pour tous. Peut-être avez-vous même manifesté dans les rues de votre ville pour manifester votre indignation contre le mariage pour tous. Mais j'aimerais juste savoir si vous avez la même passion pour votre mariage. Je ne parle pas du mariage en général. Je ne parle pas des enquêtes qu'on fait sur les mariages et sur les divorces. Et... Non, 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 non. Le seul mariage qui vous concerne, au premier chef, le vôtre. Surtout par rapport à ce que nous avons dit hier sur l'idée que Dieu se fait du mariage. Le mariage comme parabole, comme illustration, comme métaphore du lien vital qu'il veut avoir avec nous. Et vous voyez, cette affection particulière que Dieu a pour le mariage, eh bien, sachant cela, dans mon désir de transmettre une culture, et pas seulement un savoir, quelle passion je manifeste à l'égard de mon mari, à l'égard de ma femme, quel geste, quel mot, quelle tendresse, quelle soumission, quelle vérité, quelle préférence, quelle prière quotidienne j'adresse à Dieu pour mon mariage. J'ai rencontré un couple cette semaine qui m'avoue que depuis 25 ans, ils prient tous les jours pour leur mariage. J'étais sidéré d'entendre ça. Pour que leur mariage montre quelque chose de Dieu dans une société qui ne voit plus Dieu. Quelque chose qui montre Dieu. Qui montre Dieu d'une manière claire et évidente à mon entourage. Et voyez-vous, c'est vraiment une affaire de contenu, de culture et de transmission. Mais c'est surtout une affaire d'état d'esprit. Et c'est cela qui éduque les gens. C'est cela qui leur donne le désir d'être eux-mêmes éduqués. Alors je dirais à tous les mariés qui sont là, prenez votre mariage à bras le corps hein, et faites-en une rumeur, un signe, un chuchotement du royaume de Dieu dans une culture qui ne voit plus Dieu, mais qui vous verra, vous. Montrez à quel point vous prenez au sérieux ce que Dieu dit sur votre mariage. Alors quand je dis votre mariage, c'est mon mariage aussi, bien entendu. Et comment je traduis concrètement dans la vie de tous les jours tout ce que je sais? Pas seulement un savoir, pas seulement une connaissance, mais une personne qui me dit ce que c'est que l'amour et qui me demande de le traduire de manière concrète et évidente envers la personne avec qui je suis. J'aimerais m'adresser aussi aux personnes seules, aux célibataires, qui doivent se dire, depuis 2 jours, pétard, on ne parle qu'aux mariés, et puis pour nous, célibataires, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et très souvent, je rencontre des célibataires qui vivent leur célibat comme un échec, et qui voient le mariage comme une victoire. Et trop souvent, ces célibataires se mettent en réserve, en attendant l'âme sœur, en considérant qu'ils ne seront une personne complète et à part entière que quand ils seront mariés. Et voilà ces célibataires qui traînent avec leur célibat. Et je ne veux pas, et je ne suis pas en train d'être un pharisien qui essaie de mettre des fardeaux que je ne veux pas porter et dont je sais la lourdeur. Mais trop souvent, les célibataires idéalisent le mariage ou se recroquevillent sur eux, pensant que leur besoin de relation est réprimé par l'Évangile. Non, chers frères et sœurs célibataires, votre besoin d'amour, votre besoin de tendresse, votre besoin d'écoute, votre besoin de considération, votre besoin de dialoguer, votre besoin d'une présence de sexe opposé, tous ces besoins ne sont pas réprimés par l'Évangile. Et Jésus sait que c'est important. Mais je vous invite en particulier à comprendre ce que Jésus dit dans Matthieu 19, ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Alors, je ne ferai pas l'affront de dire que les célibataires d'aujourd'hui sont les eunuques d'hier. Aucune comparaison, aucun lien. Le seul point commun que peut-être les célibataires ont avec les eunuques, c'est que les eunuques ne sont pas mariés ou ne peuvent pas se marier. Comme les célibataires dans nos églises, qui parfois ont le sentiment que le mariage est vraiment une réalité compliquée, difficile d'y entrer, difficile de vraiment trouver des réponses bibliques aux problèmes charnels, vraiment intimes que nous avons par rapport à toutes ces questions. Mais je vous invite à considérer la réponse de Jésus à ses disciples. Éduquer, c'est montrer que quelque chose est possible. Et en tant que célibataire, vous pouvez aussi montrer quelque chose du royaume de Dieu dont nous avons tous besoin. Et dans Matthieu 19, Jésus dit à ses disciples qui refusent le principe de fidélité dans le mariage, Jésus leur offre l'image des eunuques qui se sont rendus eunuques pour le royaume de Dieu. Et Jésus semble dire à ses disciples, « Quoi, vous, mes disciples, vous résistez à cette idée de la fidélité inébranlable au lien conjugal, alors qu'il y a des eunuques qui sont capables d'être fidèles à la situation qu'ils vivent par appui sur un amour qu'ils veulent privilégier. Et vous, mes disciples, vous n'êtes pas capables de céder, de comprendre ce lien fidèle auquel je vous appelle dans le lien conjugal. » Et voilà que Jésus prend les eunuques, les gens non mariés, comme exemple, comme métaphore, comme signe de fidélité, et qu'il propose aux gens mariés. Relisez bien Matthieu 19, et c'est vraiment le fond de la pédagogie du Seigneur. Et vous savez, frères et sœurs, célibataires, quand je vous vois vivre fidèlement une situation qui n'est pas simple dans une société comme la nôtre, et que je vous vois être fidèle, eh bien, vous m'éduquez. Vous m'enseignez que quelque chose est possible, que être fidèle avec Martine est possible, parce que vous êtes fidèle à une situation que vous n'avez pas choisie, qui est certainement une cause de souffrance, mais que vous assumez avec la force que Dieu vous donne aujourd'hui. Enseigner, c'est montrer que quelque chose est possible. Nous voulons éduquer nos enfants. Nous voulons leur montrer à quel point cette culture du royaume nous habite. Eh bien, chers frères et sœurs célibataires, prenez à bras le corps votre célibat pour que ce célibat soit source d'éducation aussi dans l'Église, auprès des jeunes, auprès des enfants. Et je vous dis sincèrement, j'ai eu 7 enfants, et aujourd'hui, si je crois et j'imagine que je peux être seul capable d'éduquer mes enfants, alors bien sûr qu'en tant que parent, j'ai une part vraiment très importante, mais dans une société qui ne nous fait aucun cadeau, ne cessons jamais d'être éducateurs les uns des autres. Et au travers de cette éducation, eh bien, toute la famille du Seigneur en profite. Je vous remercie et que le Seigneur nous bénisse pour que nous soyons vraiment profondément transmetteurs et porteurs de cette culture du royaume dans les situations différentes et distinctes qui nous permet de vivre et qu'au travers de ce que nous témoignons, eh bien, nous sachions éduquer. Amen.